Chapitre 28. Pendant que Clémence se faisait conduire à la station dans une petite voiture découverte, M. de Carquebute rentrait au château, donnait ordre qu'on emballât dans une malle les objets qu'elle lui avait indiqués. Ayant trouvé la porte de l'appartement de Clémence fermée, il avait voulu l'ouvrir en la forçant et il avait fait un tel tapage que Louis, attiré par le bruit, était survenu. « Vous avez besoin d'entrer dans cet appartement ?» demanda Louis. « Qu'est-ce que ça te fait ?» répliqua M. de Carquebute d'un ton bourru. « C'est que j'en ai fermé la porte à clé. »« Alors, ouvre-la. Madame Clémence vient de m'écrire un mot. Je suis allé la voir à l'auberge et elle m'a demandé de faire mettre dans une malle les objets qui lui appartiennent. Si c'est toi qui commandes ici, tu vas dire qu'on porte tout de suite cette malle au chemin de fer et qu'on l'expédie par grande vitesse au nom de Madame Beaujonnier, en gare à Paris. » Louis avait ouvert la porte, assez surpris que Clémence se résignât si facilement et si vite à partir. Il avait cru à un retour offensif et il s'était préparé à le repousser. Abandonnait-elle la partie? Ce départ semblait l'indiquer. Cependant, ne se fiant point aux apparences, il résolut de faire bonne garde et de ne pas quitter son cousin, même pour une minute. Sa mère et Denise arriveraient le lendemain, alors il pourrait se relâcher de sa surveillance. Comme la veille, le marquis prit ses repas dans sa chambre, ce qui dérangea le plan de M. de Carquebute. Comment disposer la fenêtre par laquelle Clémence devait s'introduire s'il ne pouvait pas pénétrer lui-même dans cette chambre ? Après le dîner, il prit bravement son parti et sans avoir fait demander au marquis s'il pouvait le recevoir, ce qui était la règle habituelle, il entra gaillardement. « Mon cher Arthur, dit-il en tendant la main au marquis qui s'était affaissé dans un fauteuil, j'ai voulu vous voir, j'étais inquiet de vous. Comment va la santé, mon ami ?
Je ne me sens pas bien.
Après les secousses que vous venez d'éprouver, c'est bien naturel. » À ce mot, Louis fit signe à son oncle de ne pas aborder ce sujet, mais celui-ci parut ne pas le voir, ou tout au moins ne pas le comprendre. « À votre place, dit-il en continuant, je serai plus mal que vous. Il faut que vous ayez une belle énergie pour avoir pu prendre une pareille résolution. » «
Il a fallu, il s'agissait de ma vie et de mon salut. »
Enfin, mon ami, c'était votre affaire, non la mienne. Vous étiez libre. Vous avez agi pour le mieux, sans doute. Je ne vous blâme pas, je ne vous approuve pas non plus. Je dis seulement qu'à votre place, même pour ma vie, même pour mon salut, j'aurais été incapable d'un aussi grand sacrifice. » Comme les signes de Louis avaient redoublé, M. de Carquebute se tourna brusquement vers son neveu.
« Eh bien, quoi » fit-il, « qu'as-tu ?
Pourquoi ces signes mystérieux ? Est-ce que je n'ai pas le droit de parler, de réconforter ce pauvre ami ? Voudrais-tu par hasard m'empêcher de dire que se séparer de Madame Clémence était un grand sacrifice ? Voudrais-tu changer mon opinion sur le compte de cette dame ? Je te préviens que tu n'y arriveras pas. » Il avait élevé la voix. « Rien ne m'empêchera, cria-t-il, de proclamer que c'est une créature charmante et une femme tout à fait remarquable. Voilà mon opinion et je la dis parce que je n'ai peur de personne, moi. Peur de personne, entends-tu ? N'est-ce pas, Arthur, que c'était une femme charmante ? » Le marquis poussa deux ou trois soupirs. « Pauvre ami, s'écria M. de Carquebute en serrant la main du marquis, nous en parlerons ensemble, nous qui la connaissions si bien. » Et de sa main restée libre, il s'essuya le coin de l'œil. Mais bientôt, se secouant vigoureusement, « Allons, allons, dit-il, soyons des hommes, sacrebleu, ne nous laissons pas attendrir ainsi. Il faut nous distraire, Arthur, mon vieux, il faut nous distraire. Si nous faisions une partie d'écarté. » Le marquis secoua la tête. « Je sais bien, poursuivit M. de Carquebute, que c'est moins agréable de jouer avec un vieux dur à cuire comme moi qu'avec une jolie petite poulette comme elle. Mais enfin, je ferai ce que je pourrai pour que le temps passe moins tristement pour vous. » « Foi d'honnête homme, ça me chagrine de vous voir cette figure. Mon pauvre ami, mon pauvre ami !» Parlant ainsi, il avait été chercher une petite table à jeu et il avait apporté devant le marquis.
Dans un tiroir, il prit un paquet de cartes avec des jetons et disposa le tout sur le drap vert. Mais, prêt à s'asseoir, M. de Carquebus s'arrêta. Une fenêtre était ouverte juste en face le marquis. M. de Carquebus alla la fermer. « Cette fenêtre vous envoie l'air de la nuit en plein dans la figure, » dit-il en s'adressant au marquis. « La fraîcheur pourrait vous faire mal aux yeux. Si vous voulez, je vais ouvrir celle qui est derrière vous. » Et, sans attendre une réponse, il alla ouvrir la fenêtre qui lui avait été indiquée le matin par Clémence. Puis, cela fait, il vint s'asseoir et la partie commença. Alors, il se passa un fait extraordinaire, prodigieux, et que se seraient refusés à croire ceux qui, connaissant M. de Carquebus, en auraient été témoins. Pour la première fois de sa vie, il tricha pour perdre. À l'exemple de Clémence, il écarta ses bonnes cartes. Le marquis gagna. « C'est donc vrai ?» s'écria M. de Carquebus en jurant. « Malheureuse en femme, heureuse au jeu. » La seconde partie ne fut pas meilleure pour lui. Il la perdit encore, et cette fois d'une façon humiliante. 2 points pour lui, 5 pour le marquis. « C'est trop fort » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que j'ai donc? Ça ne s'est jamais vu. » Il regarda autour de lui. « Ah, j'y suis » dit-il. « C'est le vent de cette fenêtre qui m'envoie la fumée de cette lampe dans le nez. Cela m'aveugle. » Alors, se levant, « Cela ne vous gêne pas, Arthur, que je ferme cette fenêtre ?»« Vous avez voulu l'ouvrir, vous êtes libre de la fermer. »« Merci, mon ami. » Et il alla à la fenêtre, mais au lieu de la pousser simplement, il tira les 2 volets et les remua avec un bruit de ferraille. Puis il poussa la fenêtre elle-même en faisant fonctionner la crémone. Enfin, il ferma les rideaux qui, glissant sur leurs 2 tringles, se joignirent complètement. Alors, revenant à sa place, il reprit les cartes d'une main assurée. « Maintenant, dit-il, cela va mieux aller. » Et de fait, cela alla beaucoup mieux, ce fut au tour du marquis de perdre. « J'en étais sûr, disait M. de Carquebus, à chaque partie qu'il gagnait. C'était la fenêtre. » Le marquis était beau joueur et surtout bon joueur. Cependant, la persistance de la déveine l'ennuya. Il se plaignit d'être fatigué et parla de se mettre au lit. « Encore une partie, dit M. de Carquebus, une seule. Pendant que nous la jouerons, on préparera tout pour votre coucher. » Et, se levant, il alla lui-même sonner pour appeler Valérie. Le premier soin du valet de chambre en entrant fut de fermer les fenêtres. C'était là que M. de Carquebus l'attendait. « Celle-là est fermée, » dit-il quand Valérie s'approcha de celle qu'il avait lui-même arrangée. « C'est moi-même qui l'ai fermée, et quand je fais une chose, elle est bien faite. Inutile d'y toucher. » Puis, revenant à ses cartes, « à tout et à tout. Vous m'en avez refusé. Avec le roi que j'ai marqué, cela me fait 3 points. Arthur, vous êtes battu, mon ami, mais je ne vous plains pas, la chance va vous revenir. Malheureux au jeu, heureux en... Vous savez le reste. » Ce fut presque malgré lui qu'il se permit cette plaisanterie, peut-être imprudente en un pareil moment. Mais il lui fut impossible de la retenir en pensant à la bonne tête que son neveu ferait le lendemain en face de Clémence. Il n'était pas encore 11 heures quand M. de Carquebus et Louis sortirent de la chambre du marquis. En passant dans la bibliothèque, M. de Carquebus remarqua un petit lit pliant qui avait été dressé là. « Pour qui ce lit ? » demanda-t-il. « Pour moi, » répondit Louis. « Je veux être à portée de mon cousin s'il a besoin de moi. » « Et puis, comme cela, tu gardes sa porte. Veux-tu que je te prête mon revolver ?» Louis ne répondit pas. « Bonne nuit, gendarme, dors bien. » Et M. de Carquebus monta à sa chambre en faisant retentir les voûtes de l'escalier du bruit de ses pas. Puis, en entrant chez lui, il ferma la porte avec fracas. Mais 10 minutes après, ayant remplacé ses bottes par des chaussons, il ressortit doucement, marchant avec précaution, rasant les murailles. Arrivé sur l'esplanade, il se tint dans l'ombre projetée par la masse sombre du château, et sans faire de bruit, il gagna le premier arbre qui se trouve au haut de la côte. Là, il s'assit pour attendre Clémence. Comme la demie sonnait à l'horloge, il vit apparaître une forme noire, si bien enveloppée dans un manteau et dans un voile, que s'il n'avait pas su à l'avance que c'était elle, il ne l'aurait pas reconnue. Lorsqu'elle fut près de son arbre, il se leva brusquement. Mais elle ne marqua aucune surprise. « Ah, c'est vous, dit-elle, vous avez bien fait de m'attendre. Tout est-il disposé comme nous l'avons décidé ?»« Parfaitement, j'ai moi-même fermé la fenêtre, c'est-à-dire que je l'ai laissée ouverte. Vous n'aurez qu'à tirer les volets sur vous et à pousser doucement la fenêtre pour qu'elle ne se prenne pas dans les rideaux. »« Bien. Quant à Arthur, je l'ai préparé aussi par quelques paroles. J'ai versé quelques larmes sur votre départ. » « Et il a été ému ?»« Ah, je crois bien. » »« Alors, tout est bien. Ne m'accompagnez pas plus loin, je marcherai plus doucement que vous sur le sable. Il ne faut pas, si par hasard votre neveu n'est pas encore endormi, qu'il nous entende. » Et, comme si elle avait eu des ailes, elle s'éloigna sans faire de bruit. Le gravier ne craquait pas sous ses pieds légers. Bientôt, elle disparut dans l'ombre. En arrivant à la fenêtre, elle tira doucement les volets qui vinrent à elle. Puis, ayant poussé les deux battants de la fenêtre, elle enjamba l'appui et se trouva dans la chambre derrière les rideaux. Elle écouta. Aucun bruit. À travers la fente des rideaux, elle regarda avec précaution. Une veilleuse brûlait à sa place ordinaire. La plus grande partie de la chambre était noyée dans l'ombre. Doucement, elle écarta un rideau et avança une oreille. Le bruit d'une respiration régulière arriva jusqu'à elle. Le marquis dormait. Alors elle tira doucement les volets et, ayant poussé la fenêtre, elle entra dans la chambre. Marchant et glissant sur le tapis, elle alla tout d'abord à la porte qui communiquait avec les autres appartements et, vivement, elle poussa les deux verrous. Maintenant, il était à elle.